OK, bonjour tout le monde. Madame Paradis, Nathalie, bienvenue. Je vous invite à prendre place, crowd. Déjà, on peut vous souhaiter la bonne fête des mères aux mamans qui sont parmi nous. Ça vous rappelle que vous avez une maman, que vous n'avez pas souhaité bonne fête des mères, je vous permets de sortir de la classe pour faire un téléphone. On va être dans un mot de prière ensemble. Père éternel, merci pour ce temps en Église qu'on peut prendre ce matin. Merci pour la fête des mères aussi, Seigneur. Père, je me permets de te demander d'apporter ta consolation à ceux qui ont perdu leur maman aussi. Je pense à quelques décès qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Et on te prie, Seigneur, de consoler, d'aider chacun à se souvenir des bénédictions reçues à travers nos mères. Père, on te demande de bénir ce temps dans ta parole ce matin. Viens nous faire grandir. Seigneur Jésus, cette lettre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, t'exalte. Exalte ton saint nom. À part l'Apocalypse, je pense que c'est la lettre qui t'élève le plus, Seigneur. Je te prie de nous aider à grandir comme adorateurs, à trouver notre plaisir, à nous approcher de toi, à trouver notre bonheur à te servir, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, on est dans le cours en esprit et en vérité, à la leçon 8. On va couvrir ensemble ce matin la lettre aux Hébreux et l'adoration de Jésus. On a des notes de cours quelque part. Peut-être sur la table là-bas, autrement, elles seraient en haut sur le bureau de réception. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vérifié. Normalement, il y a quelqu'un qui les apporte. Alors, si elles ne sont pas là, elles sont en haut. Et la semaine prochaine, on a une pause parce que c'est une longue fin de semaine. On est en train de regarder un peu la cédule là, pour les prochaines années. C'est comme s'il y a peut-être un petit peu trop de pause dans nos cédules, là, puis ça rend un peu compliqué juste même d'avoir un suivi dans nos cours. Là. Donc, on va essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine, trouver des solutions. Mais je vous mentionne quand même, la semaine prochaine, il y a une pause. On se retrouve la semaine d'après. Il nous reste quelques leçons. On va rentrer dans l'Apocalypse. Ensuite, on va tirer des conclusions ensemble, d'accord, sur l'adoration. La lettre aux Hébreux et l'adoration de Jésus. Leçon 8. Comme je le mentionnais dans la prière, la lettre aux Hébreux est... Peut-être même plus encore que l'Apocalypse, et le livre dans la Bible qui exalte Jésus-Christ comme aucun autre. Parce que c'est, comme le dit l'auteur du livre sur lequel se base le cours, c'est probablement la lettre où on a l'exposé le plus complet de l'adoration dans le Nouveau Testament. Et puis Christ en est la figure principale. Oui, merci ceux qui veulent les notes de cours. Merci David, c'est très gentil. Juste levez la main, on va vous apporter ça. Dans Hébreux 1, les versets 1 à 3, voici ce qu'on lit. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Je ne sais pas si on a un micro qui peut circuler. Si on n'en a pas, je vais répéter vos réponses, mais vous pouvez regarder dans vos notes ou vous pouvez regarder dans vos Bibles. J'aimerais ça que vous me disiez, juste dans les versets, les versets 1 à 3, ceux que je viens de lire, quels sont les thèmes qui ressortent ici, qui sont centrales à l'adoration dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Je veux dire, on pourrait faire tout le cours sur ces trois versets-là, puis parler de Christ puis de l'adoration. Si vous regardez ces trois premiers versets, quels sont les thèmes qui ressortent, qu'on a vus jusqu'à présent sur l'adoration dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Quelqu'un qui peut m'en sortir un? Oui, Camille.
Le thème de la parole.
Alors, la révélation, okay, si je le remets dans le langage qu'on utilisait, on a dit dans l'Ancien Testament qu'une particularité de l'adoration dans l'Ancien Testament, c'est qu'on est appelé à adorer un Dieu qui s'est révélé, qui s'est fait connaître à nous. Les Juifs, puis les chrétiens maintenant, on n'adore pas par intuition. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont une relation intuitive avec leur Dieu. Bon, dans notre langage à nous, on dirait peut-être plutôt avec leur Dieu imaginaire, d'accord? Puis les Écritures nous disent, oui, qu'il y avait une certaine place, une certaine intuition pour connaître Dieu dans Romains 1. À travers la nature, on peut connaître certaines choses de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les Juifs, les chrétiens adorent le Dieu qui s'est révélé. Puis ce thème-là est très présent ici. Après avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu a parlé maintenant par le Fils. Donc Dieu s'est fait connaître. Et puis il va plus loin que ça même, parce que ce Dieu-là s'est fait connaître par le Fils, non seulement par ce que le Seigneur nous a enseigné ou ce que le Fils nous a enseigné, mais il nous dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc quand je connais le Fils, je connais Dieu le Père. C'est le Dieu qui se révèle, ça. Il y a d'autres thèmes qui sont là, qu'on a déjà vus. Est-ce que vous voyez d'autres thèmes dans les trois premiers versets qu'on a vus sur l'adoration jusqu'à présent dans le cours? Ben, à la fin des trois versets, hein? Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La purification des péchés, dans l'Ancien Testament, on a dit quoi? On a dit les Juifs adoraient le Dieu qui s'est révélé à eux. Les Juifs adoraient le Dieu qui les a rachetés. D'accord? Donc, c'est Dieu qui a créé son peuple. Je vais le dire comme ça, c'est Dieu qui crée son peuple d'adorateurs. D'accord? Et donc, cette purification-là, ce rachat-là est présent ici encore. D'accord? Donc, c'est Christ qui nous révèle le Père, c'est Christ qui nous purifie de nos péchés, ce qui va nous rendre aptes à devenir des adorateurs. C'est ça qui va être développé dans la lettre, qui va revenir à plusieurs reprises. Et puis, évidemment, bien, on a Christ qui est tout simplement l'objet de l'adoration dans ce passage-là, puisqu'il s'est assis à la droite de la majesté divine. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Le monde a été créé, il soutient le monde par sa parole puissante. Donc, c'est vraiment Dieu qui est au centre, puis ce Dieu-là se révèle dans la personne de Dieu, le Fils. D'accord? Alors, la lettre aux Hébreux est, de tous les livres du Nouveau Testament, le livre qui est le plus complet sur l'adoration, et c'est celui qui nous aide le mieux à comprendre quand Jésus-Christ, tout ce qui était lié à l'adoration dans l'Ancien Testament est accompli dans la personne de Christ. C'est vraiment la lettre pour comprendre ça. C'est la lettre la plus complémentaire avec l'Ancien Testament, avec tout ce qu'il y a autour du temple. D'accord? Et donc, c'est précieux pour comprendre l'adoration, pour comprendre comment Dieu veut que nous l'adorions. Ce qui nous est dit dans cette lettre-là, c'est que Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Si vous vous rappelez, on avait quatre thèmes, si je ne me trompe pas. La révélation, la rédemption ou le rachat, l'alliance, et puis ensuite de ça, le service. C'était les quatre thèmes qu'on avait identifiés pour résumer l'adoration dans l'Ancien Testament. Dieu se révèle, Dieu rachète son peuple, Dieu entre dans une alliance avec son peuple, et le peuple entre au service de Dieu. C'est comme ça qu'il va l'adorer. Et donc, Christ vient et il est le médiateur d'une nouvelle alliance, plus excellente même, au chapitre 7, une alliance par excellence célébrée dans un sanctuaire céleste. C'est une nouvelle alliance qui est offerte au peuple de Dieu. On est dans les mêmes thèmes que dans l'Ancien Testament, mais exactement dans les mêmes thèmes. Fait que quelqu'un qui vous dirait, OK, mais il y avait les Juifs dans l'Ancien Testament, moi maintenant je suis quelqu'un du Nouveau Testament, puis je ne crois pas dans tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, mais moi j'aime Dieu puis je sers Dieu. Il y a des églises libérales qui ont une vision universaliste du salut, admettons. Ils vont dire en définitive, tout le monde va être sauvé. Non, dans le Nouveau Testament, sous Jésus, c'est ceux qui entrent dans la Nouvelle Alliance qui vont être sauvés. Donc, le thème de l'Alliance est encore là. Il y a ceux qui sont entrés dans l'Alliance et ceux qui ne sont pas dans l'Alliance. D'accord? Christ est venu nous présenter une Alliance plus excellente. Et on est appelé à entrer dans cette Alliance-là. Cette Alliance-là avait été annoncée dans Jérémie 31. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient qu'un jour viendrait où il y aurait une nouvelle Alliance, qui serait plus grande encore. La lettre aux Hébreux nous dit que Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance-là dans laquelle on est appelé à entrer. C'est quoi les signes, par exemple, qu'on a comme chrétien? À quel moment un chrétien va prendre le temps de souligner, de célébrer cette alliance dans laquelle il est entré avec Dieu? Pardon? À Pâques, on va prendre le temps de se rappeler de la mort de Christ. Lors du repas du Seigneur. Alors, dépendamment des églises, on va le faire toutes les semaines, à tous les mois. Ici, on le fait une fois par mois. Une fois par mois, on se souvient de la Pâque, de la Nouvelle Alliance, lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Dans une certaine mesure, le baptême de chacun des croyants, c'est ça aussi. Parce qu'ils témoignent publiquement qu'ils sont entrés dans cette Nouvelle Alliance-là avec Dieu. Et ils le font en Église. Pourquoi? Parce que c'est en Église qu'on va reconnaître qu'un individu entre dans cette alliance-là, qui est non seulement avec Dieu, mais qui est avec le peuple de Dieu aussi. Se joint à l'Église de Christ et confirme le fait qu'elle s'est jointe à l'Église de Christ par son baptême. D'accord? Donc, on célèbre cette nouvelle alliance-là. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Jésus-Christ et qui ne se fait pas baptiser ne témoignera jamais publiquement qu'il est entré dans cette alliance avec Christ. C'est quelque chose. C'est quelque chose de sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des appels au baptême. Parce qu'on veut que les gens témoignent publiquement qu'ils sont entrés dans cette nouvelle alliance-là. Comment est-ce que vous décririez en quelques mots les particularités de cette nouvelle alliance? C'est toutes des réponses qu'on a lorsqu'on comprend un peu l'Évangile, puis on compare avec l'Ancien Testament. Mais juste évoquer, donnez-moi quelques éléments de cette nouvelle alliance-là. La lettre aux Hébreux nous dit qu'elle est plus excellente. En quoi est-elle plus excellente? Une fois pour toutes. Un sacrifice final. On va venir à ça. Excellent. Quoi d'autre? En quoi est-elle plus excellente? La réconciliation est permanente. Ça revient une fois pour toutes aussi. En quoi est-elle plus excellente? C'est ça. Alors, il n'y a plus de médiateur. Notre médiateur a accompli l'œuvre, puis le Seigneur Jésus lui-même va dire, « Maintenant, je vous dis d'aller vers le Père. C'est votre Père. Vous êtes entré dans la famille. Vous avez accès à Dieu. » Donc, Christ intercède encore pour nous, mais sa médiation pour notre salut, pour nous donner accès au Père, est accomplie. Donc, on a un accès constant au Père. Un autre élément, quelque chose d'autre à laquelle vous pensez. Oui, Camille. On n'est plus limité par un lieu. On a vu à travers les dernières semaines, même à travers la série dans 1 Pierre, mais on a vu ensemble que Christ est notre temple, Christ est notre lieu, c'est abordé dans, c'est notre montagne où on va s'approcher de Dieu, Christ lui-même. L'Église elle-même, dans 1 Pierre, on est en train de voir ça, est un édifice de Dieu. Puis Paul va nous dire que notre corps lui-même, puisqu'on est habité de l'Esprit, est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et donc, on est constamment dans la possibilité d'entrer en communion avec le Père puis d'être des adorateurs en esprit et en vérité. On n'a plus de lieu, on n'a plus d'endroit, on n'a plus d'obstacle. C'est permanent. C'est vraiment une alliance supérieure, une alliance excellente qui nous a été donnée. Un autre élément, si on pense à Jérémie, mais c'est cette possibilité de marcher dans la plénitude de l'Esprit-Saint, de marcher selon la loi de Dieu, d'accord? Jamais parfaitement, on bronche de plusieurs manières, on va confesser nos péchés, on va se repentir lorsqu'on pêche, mais la loi n'est plus un juge qui me condamne. La loi a été entièrement accomplie par Christ, puis maintenant ce que je cherche, c'est la plénitude de l'Esprit pour être inspiré par la loi à marcher comme Christ. D'accord? Donc, mon rapport à la loi est fondamentalement différent. Quand la loi me montre que j'ai péché, rapidement, je cours à la croix. Puis là, je dis, Seigneur, j'ai été gracié de mes péchés. Tu m'as pardonné mes péchés. La loi n'est plus mon accusateur. La loi devient mon guide. Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? La loi dans l'Ancien Testament condamnait, et puis s'ils avaient été attentifs à la loi, condamnaient absolument, parce qu'ils étaient constamment en faute, puis ils devaient courir à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Mais là, quand j'arrive dans le Nouveau Testament, Christ, le Fils parfait, a parfaitement obéi à la loi, donc il a accompli mon obéissance. C'est important, hein? C'est les deux aspects différents de notre salut. Non seulement Christ paie pour mes péchés, mais Christ accomplit mon obéissance parfaite. Ce qui m'est accordé, le mot imputé, on n'est pas très familier, là, c'est à ma place. Ce qui m'est imputé, ce n'est pas seulement le pardon de mes péchés à cause du sacrifice de Christ, c'est aussi la vie parfaite de Christ. D'accord? Et donc, c'est lui qui obéit parfaitement à la loi. Ce que moi, je ne suis toujours pas capable de faire parce que je lutte encore parfois avec mon vieil homme. D'accord? Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Mon rapport à la loi a changé. Parce que la loi ne me condamne plus. J'ai déjà été pardonné en Jésus-Christ. Il a déjà obéi parfaitement. La loi devient maintenant un guide pour moi. Chaque fois que je me rends compte que j'ai pas été guidé, je ne me suis pas laissé guider par l'Esprit à faire ce que la loi commande, je vais me repentir de ça. Mais je sais que Christ, que Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis caché en lui. Donc, la loi, mon rapport à la loi n'est plus un rapport de condamnation. C'est un rapport de sagesse, c'est un rapport de conseil. La loi m'est utile. Donc, les puritains disaient, la loi devient maintenant notre guide. Elle est là pour m'instruire à devenir comme Christ. Christ, sans la loi, obéit parfaitement à la loi. Il n'avait pas besoin de la loi pour le guider. Il est lui-même Dieu le Fils. Mais comment est-ce que je vais avoir le caractère de Christ? Comment est-ce que je vais grandir à la ressemblance de Jésus-Christ? C'est en étudiant la loi. J'étudie la loi, ça devient un guide, ça me donne du discernement. L'Esprit Saint en moi m'aide à comprendre, puis l'Esprit Saint me donne la force pour obéir, pour ressembler à Christ. Imparfaitement, je pêche souvent, trop souvent, mais la loi n'est plus là pour me condamner. Elle est là pour me montrer que j'ai manqué, je vais me repentir. Je vais dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je pense que je vous ai partagé, ou je ne me souviens pas si c'est pendant la prédication ou pendant le cours, mais depuis un certain temps, presque tous les matins dans la semaine, je fais une prière. Puis je dis, Père, je te demande aujourd'hui de me remplir de ton Esprit Saint, comme ton Fils était rempli de ton Esprit, afin que, comme tu t'es glorifié par ton Fils, avec une manifestation de puissance dans sa vie, je te demande, Seigneur, de te glorifier dans ma vie avec une même manifestation de puissance. Je vous ai partagé ça dernièrement. Et je fais cette prière-là presque tous les matins de la semaine. Presque tous les matins de la semaine. Parce que je ne veux pas, je refuse de me voir premièrement comme un pécheur. C'est plus ça mon identité première. Mon identité première, c'est que je suis un pécheur gracié. Comprenez? Avant, j'étais un pécheur. Puis Dieu m'a convaincu que j'étais un pécheur. C'est ça qui m'a conduit à la croix. Maintenant, si la première chose que je pense de moi, c'est que je suis un pécheur, le problème, c'est que je me scie les deux jambes. Parce que je renonce à, par ignorance souvent, là, mais je renonce à me voir comme Dieu m'appelle. Dieu m'appelle un saint. Donc, je suis un saint. Moi, j'ai souvent conscience de mon imperfection, d'accord? Mais si je comprends bien l'Évangile, si je vis bien l'Évangile, mon imperfection ne va pas m'abattre. Elle va me conduire à la repentance. Parce que je sais que je suis déjà pardonné en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que c'est comme si je fais un résumé de l'implication de la Nouvelle Alliance. Est-ce que vous avez des questions? Ou peut-être que vous dites, je ne suis pas tout à fait à l'aise comment tu le formules. J'aimerais ça qu'on puisse le discuter si c'est le cas, pour qu'on puisse le clarifier. Est-ce que c'est clair lorsque je l'explique? Oui. Et donc, c'est possible que votre vie chrétienne vous apparaissent très, très lourdes parce que vos yeux sont fixés sur vos imperfections au lieu d'être fixés sur Christ. Puis c'est correct de voir mes imperfections parce que si je ne les vois pas, je pourrais me faire croire à moi-même que tout va bien puis peut-être que j'ai attristé l'Esprit Saint. Tu sais. Fait que c'est correct que je vois mes imperfections. Mais tout au long de ma journée, ce que je veux contempler, ce n'est pas mes imperfections. Quand je fais ça, c'est comme si j'enlève quelque chose à l'œuvre de Christ. Je ne vois pas l'œuvre de Christ dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Je veux fixer mes regards sur l'œuvre de Christ. Si je les fixe sur mes imperfections, il y a des effets négatifs, je vais être démotivé, je vais me décourager, mais ce n'est pas ça la première chose. C'est que je ne rends pas tout l'honneur à Christ. C'est comme je disais, Seigneur, c'est vraiment hot ce que tu as fait, mais moi, ce qui m'obsède, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que moi, je n'arrive pas à faire. Puis, à quelque part, ma faiblesse est plus importante à mes yeux que ta gloire. Comprenez? Mais je sais déjà, quand je pense à l'éternité, je sais déjà que je vais pas entrer dans la gloire parce que ma faiblesse va être disparue. Je vais entrer dans la gloire à cause de la gloire de Christ. Je vais entrer dans la présence de Dieu à cause de la gloire de l'œuvre de Christ. Fait que si votre vie chrétienne vous semble très, très lourde, une des raisons possibles, c'est que vous accordez beaucoup plus d'attention à vos faiblesses. Puis là, il y a toutes sortes de motifs qui peuvent être là. Ça peut être une mauvaise compréhension de l'Évangile. Ça peut être un orgueil mal placé. Il y a toutes sortes de raisons, hein? On peut être déçu. Dernièrement, je partageais avec un frère, on parlait d'une chose en particulier dans ma vie, puis on était en train de discuter de ça. Puis j'ai dit, en discutant avec toi, je suis en train de réaliser que je crois que depuis très longtemps, depuis des années, ma tristesse par rapport à cette faiblesse-là dans ma vie est plus liée au fait que je suis déçu de moi-même, qu'au fait que ça attristerait l'Esprit-Saint. Fait que ma tristesse, où je parle de mon péché, je vois mon péché, tu sais, ça peut sembler très, très pieux. Je suis très conscient de mon péché. Bien, il y avait probablement un autre péché aussi à côté de ça. Parce que cette tristesse-là n'était pas nécessairement causée par la tristesse d'attrister l'Esprit-Saint. Mais peut-être par le fait que je suis déçu de moi-même, puis c'est peut-être un orgueil mal placé qui était là. Oui, Miguel.
Dans la société dans laquelle on vit, on parle beaucoup de pouvoir relever les défis par une bonne estime de toi.
Oui.
Quelle différence tu ferais par rapport à ce discours-là sur l'estime de toi, puis le fait de te voir premièrement comme des gens qui racisent? Quelle différence tu penses?
C'est une excellente question. Fait que Miguel pose la question. Notre culture met un grand emphase sur l'estime de soi et l'importance d'avoir une bonne estime de soi pour avancer puis relever des défis dans la vie. Puis ça serait quoi la nuance à faire avec l'Évangile, admettons, là, de se voir comme des gens graciés? C'est assez complexe, puis c'est une excellente question. Puis je dirais que pour bien l'appliquer, il faut discuter avec les gens parce que il y a une place. Il y a un endroit pour prendre le temps d'aider une personne à comprendre qu'elle est une créature merveilleuse. Je vais le dire comme ceci, OK? Je m'excuse si j'offense des oreilles. Un non-chrétien, non-repentant, complètement aveuglé par son péché, est une créature merveilleuse. D'accord? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Donc, il y a une place pour m'asseoir avec quelqu'un et dire... T'es une créature merveilleuse. C'est pour ça que, admettons, quand je fais une funéraille ou des choses comme ça, je vais prendre le temps de dire, toutes les personnes qui sont dans la salle ici, quelle que soit votre foi, quelles que soient vos croyances, que vous soyez athée, à mes yeux, à moi, vous êtes un être sacré parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous portez en vous-même l'image de Dieu. Donc, il y a une place pour dire, bien, si tu ne te vois pas comme une créature merveilleuse, il y a quelque chose qu'on peut aller travailler. Tu as une mauvaise théologie juste de toi comme être humain. Mais de là à dire, puis je pense que c'est là que la Bible amène un correctif, de là à dire que ma confiance va venir d'une vision autonome de moi-même. OK, merci Dieu, tu m'as créé, je suis une créature merveilleuse. Maintenant, je peux avoir confiance dans mon potentiel à moi. Tu m'as créé merveilleux, tu sais, je pourrais aller jusque-là. Puis je pense qu'on entend des trucs comme ça un peu chez les chrétiens. Je suis une créature merveilleuse, donc je peux avoir confiance dans mon propre potentiel. Tu sais. Ça, je ne vois pas vraiment ça dans les Écritures en même temps. Ma confiance va toujours être en Dieu. Puis l'avantage que je vais avoir, si ma confiance est en Dieu, c'est que l'Évangile peut être au cœur de cette confiance-là. Quand je suis déçu de moi-même, je n'ai pas à être complètement abattu de moi-même parce que je sais que mon Père m'aime. Puis que ma performance n'est pas le facteur de son amour pour moi, c'est la performance de Christ qui est le facteur de son amour pour moi. Et donc, je vais prendre de l'assurance dans le fait que mon Père m'aime comme un père aime son petit garçon, comme un bon père ou une bonne mère, aime son petit garçon qui est en train d'apprendre à faire du vélo puis qui tombe pour la 40e fois. Puis qui est encore en train de dire « Non, non, tu vas y arriver, tu vas y arriver. » Puis c'est pas que mon Père est en train de dire « Yannick, tu as tout le potentiel », mais en même temps, mon Père est en train de dire « Je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai donné mon esprit. On va y arriver, on va le finir le travail, mon homme. » Fait que je ne sais pas si je réponds à ta question, Miguel. Fait que je pense que ça... Vas-y. Oui.
Je sais pas si c'est dans Jérémie qu'on nous dit « Maudit soit celui, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. »
C'est ça.
Donc ça m'inclut moi-même.
C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est pour ça que je dis mon... Oui, je suis une créature merveilleuse. Oui, je dois reconnaître ça. Mais une confiance, pour reprendre le mot confier, une confiance en moi de manière autonome. OK, je suis une créature merveilleuse, puis par moi-même, je suis capable de tout maintenant. Ça, je ne le vois pas vraiment dans les Écritures. C'est toujours dans la dépendance envers Dieu que la force de l'homme se trouve. C'est toujours en gardant le regard fixé sur Dieu. C'est ça qui s'est passé. C'est la faute d'Adam et Ève, hein? Ils ont voulu couper ce cordon-là, puis les créatures merveilleuses qu'ils étaient sont devenues en même temps horribles parce qu'elles se sont détachées de leur vie essentielle qui est Dieu lui-même. Revenons à Hébreu, parce qu'on fait des belles conversations, mais on s'éloigne d'Hébreu. Alors, ce qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, c'est l'importance du sacrifice de Christ. Je suis au bas de la page 2. Le sang de Christ met un terme au cycle de souillure et de purification de l'ancien système. On a parlé de ça. Le sacrifice est permanent maintenant. On n'a pas à offrir de nouveaux sacrifices. C'est ce qui fait qu'on va utiliser l'expression suivante. On va dire, quand tu crois en Jésus-Christ, tes péchés passé, présent et à venir sont pardonnés. D'accord? Je suis entièrement lavé de tout péché parce que le sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Maintenant, un des thèmes qui est développé, qu'on voyait déjà apparaître dans les versets 1 à 3, c'est vraiment l'adoration ou l'hommage au Fils de Dieu. La lettre aux Hébreux est un des textes du Nouveau Testament le plus clair sur la divinité de Christ, sur la grandeur de Christ. On retrouve le terme désignant le prosternement pour affirmer que le rôle des anges est de rendre hommage à Jésus-Christ. Donc, je vous lis quelques versets. Car auquel des anges, Hébreux 1, 5, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Et donc, ce que la lettre aux Hébreux nous dit, c'est que les anges eux-mêmes adorent le Fils, célèbrent le Fils. Il est l'objet de notre adoration. Je vous dirais que c'est la... Il faut arriver dans la lettre aux Hébreux pour saisir cet élément-là. Il est comme un peu encrypté dans l'Évangile de Jean. Tu sais, Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. On voit des moments, il y a des gestes d'adoration qui sont posés dans les évangiles. On trouve dans les lettres de Paul, par exemple, l'utilisation du mot Seigneur, ou dans 1 Pierre, je l'ai souligné la semaine dernière, hein, dans 1 Pierre, lorsque Le mot « Seigneur » est utilisé en réalité pour désigner la pierre vivante qui est Christ. Puis quand je m'en vais dans le psaume qui est cité, psaume 34, verset 9, je pense, bien, c'est clair que c'est Yahvé qui est là, c'est l'Éternel qui est là. Donc, on a déjà des indices comme ça, mais lorsque j'arrive dans la lettre aux Hébreux, c'est plus clair que jamais. Ça va l'être aussi lorsqu'on va arriver, admettons, dans l'Apocalypse. Mais il nous est dit ici que les anges eux-mêmes vont le célébrer, vont l'adorer, vont lui rendre hommage. L'auteur nous invite ainsi indirectement à saisir la grandeur de Christ et à lui rendre hommage à son tour à la mesure de sa grandeur. Fait que la lettre aux Hébreux, plus que toute autre lettre, je dirais, du Nouveau Testament, me dit que Christ doit faire partie de notre adoration. Je vais adorer Christ aussi. Quand un chrétien vient adorer Dieu, il va prendre le temps d'adorer la Sainte Trinité. Il va reconnaître en Jésus-Christ Dieu le Fils. Et c'est pour ça que les chrétiens sont allés aussi loin que de formuler la doctrine de la Trinité. Le mot n'est pas là dans le Nouveau Testament, mais des lettres comme la lettre aux Hébreux nous dit « Je ne pourrais pas reconnaître le Fils à la hauteur de sa dignité si je ne reconnais pas que la Trinité existe. » D'accord? Et c'est ça qui nous a amené. Ça a été débattu au début, là. Est-ce que vraiment c'est ça que le texte est en train de nous dire? Fait que les premiers chrétiens étaient là. Comment on va formuler ça? Là? Le Saint-Esprit nous éclaire. On a le Nouveau Testament. On essaie de comprendre comment on doit résumer ce rapport-là entre le Père, le Fils, l'Esprit. Et puis ça a été débattu. Puis finalement, ils ont dit, oui, la bonne formule, ça va être ça. Ça va être la Trinité. Parce qu'on voit vraiment cette divinité chez ces trois personnes. Et c'est une seule personne. On n'est pas polythéiste. On est monothéiste, il y a un seul Dieu. Ça reste une doctrine mystérieuse. La personne de Dieu comporte une part de mystère encore. Mais ce qui n'est pas mystérieux, c'est qu'on doit rendre hommage au Fils. On va le célébrer, on va l'adorer. Les anges l'élèvent. S'approcher de Dieu. Une exhortation importante de la lettre est de s'approcher de Dieu. Donc, un des thèmes qui revient, c'est cette idée qu'on va s'approcher de Dieu, on va s'approcher de la montagne dans la personne, la montagne sainte. Lorsqu'Israël est réuni au pied de la montagne, ils reçoivent la révélation. On est invité, nous, à s'approcher de Dieu, à s'approcher de la montagne sainte en s'approchant de Christ. Christ est cette montagne, est ce lieu où on va aller rencontrer Dieu. Hébreux 4, versets 14 à 16. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, on est appelé à s'approcher de Dieu, à s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Oui?
J'ai une question. Tu parlais de la Trinité, adorer Jésus-Christ, adorer le Père. Puis, tu sais, je me rends compte que on voit, pour le Saint-Esprit, en tout cas, je n'ai pas souvenir de voir, d'adorer le Saint-Esprit, tu sais, dans la Bible. Puis, j'imagine que c'est une question de fonction. En tout cas, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ça.
C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne. Donc, la question, c'est est-ce qu'on voit l'idée d'adoration de l'Esprit-Saint? J'ai pas de passage précis qui. Bien, OK, la première chose que je veux dire, c'est clairement l'accent le moins grand. Et sur l'idée d'adorer l'Esprit-Saint. Il y a quand même des indices assez clairs qu'il fait partie de notre adoration. On va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il est là, la Trinité est célébrée à cet endroit-là. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est souvent présenté comme Dieu présent. Fait que ça serait difficile de concevoir que j'ai un rapport à l'Esprit qui n'est pas un rapport comme avec la divinité, tu sais. Ce que je vois moins, c'est des prières qui sont adressées à l'Esprit. Et je crois personnellement qu'il y a un certain dérapage dans les milieux plus charismatiques qui disent « on a oublié le Saint-Esprit ». Puis là, il semble créer une... C'est pas comme s'il découvrait dans les Écritures quelque chose qu'on a mis de côté. C'est comme s'il développe un peu là, comme par une espèce de sentiment d'équité puis un désir de pouvoir, de puissance, je pense, de l'Esprit. Ils se disent, il faut l'élever, il faut l'honorer, c'est pour ça qu'on ne le voit pas se manifester. Mais je le vois pas. C'est ça, il y a un accent beaucoup moins grand dans l'adoration, dans la prière. Je le fais, ça m'arrive de prier en m'adressant directement à l'Esprit-Saint. Parce que j'ai des manifestations, particulièrement dans l'Ancien Testament, mais par exemple dans le Nouveau Testament, il est appelé l'Esprit de Christ. T'sais. Fait que je vais le faire. Mais honnêtement, ce qui est clair dans le Nouveau Testament, c'est qu'on s'adresse au Père, puis on s'adresse au Fils. Et on le fait par la puissance de l'Esprit. Le rôle de l'Esprit, j'allais dire c'est un rôle plus silencieux, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est juste que quand l'Esprit parle, c'est jamais pour célébrer l'Esprit. Quand l'Esprit parle, c'est généralement pour élever Christ qui nous fait connaître le Père. Donc, c'est oui, il y a un aspect de fonction, définitivement. Ils ont des fonctions différentes. D'ailleurs, un des sujets intéressants à étudier avec ça, c'est le rapport d'humilité au sein de la Sainte Trinité. Le rôle du Père, le rôle du Fils, le rôle du Saint-Esprit, puis le rapport d'humilité entre les trois. Ils sont vraiment placés, je vais oser dire, ils sont même placés au service les uns des autres, parce que le Père exalte le Fils à une hauteur tellement grande qui quand tu vas dans l'Apocalypse, tu as des moments où tu as vraiment l'impression que le Fils a préséance, parce que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui est célébré, là. Et le Fils est la personne visible de la Sainte Trinité. Fait que c'est une des manières intéressantes d'étudier ça. Puis je pense qu'on fait une erreur lorsqu'on veut comme développer une espèce de nouvelle théologie pour l'Esprit-Saint, comme par un espèce de sentiment d'équité. Puis probablement que c'est même pas idéal pour comprendre nos rapports à nous comme êtres humains. Parce que l'aspect relationnel au sein de la Trinité est important pour comprendre comment nous être en relation les uns avec les autres. En tout cas, ça serait mon two penny of wisdom. S'approcher de Dieu. Et puis ensuite de ça, un thème qui est développé, puis je vais compléter Hébreux dans deux semaines. Un thème qui est développé, c'est vraiment la notion de service. Si vous allez au bas de la page 3, puis on va terminer avec ça. En deux points clés du raisonnement de l'Épître, le mot pour service, pour adoration, appartient au registre. Pour service appartient au registre de l'adoration, est employé d'une nouvelle façon pour mettre en relief ce que ça signifie être chrétien. Les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient amener à la perfection celui qui rend un tel culte, ni traiter le problème fondamental de la culpabilité. Maintenant, le sacrifice de Christ lui a rendu ça parfait, et ça nous place dans une position où maintenant on peut offrir un nouveau service à Dieu. Puis on va trouver dans la lettre aux Hébreux, je la développe dans deux semaines avec vous, mais on va prendre le temps d'aller le voir. Mais dans le fond, la lettre aux Hébreux dit aussi que lorsque j'aide des gens qui sont pauvres, lorsque je prends soin des gens dans l'Église, lorsque je vais prendre soin d'un frère, d'une sœur, lorsque je me rassemble en Église, cela fait partie de mon culte d'adoration. Parce que la portion des sacrifices est entièrement accomplie par Christ. Le seul part de sacrifice, puis il va utiliser carrément le langage du sacrifice, la seule part de sacrifice que moi je peux faire, ça va être de manifester la charité de Dieu envers des êtres humains, ce qui va être un sacrifice agréable à Dieu. Fait que je peux adorer le Fils, je peux offrir des louanges, mais par mon service où je vais prendre soin d'êtres humains au nom de Dieu, je suis en train d'offrir un sacrifice. Et dans la lettre aux Hébreux, il y a tout ce langage-là qui est utilisé. C'est ça qui m'a amené à dire dans le cours à un moment donné, pour un chrétien, passer le balai à la maison, aller ramasser les crottes du chien dehors, là, dans le fond, vous êtes dans ma maison. Vous comprenez, c'est si je le fais pour la gloire de Dieu, sans amertume, de bon cœur, ça fait partie de mon service à Dieu, ça fait partie de mon adoration. Et avant les puritains, j'ai l'impression que certaines communautés religieuses catholiques étaient celles qui saisissaient ça le mieux, parce qu'ils l'incarnaient à travers tous les petits gestes du quotidien. Et ils voyaient vraiment ça comme un acte d'adoration. Les puritains ont bien développé ça aussi. On va terminer avec un mot de prière. Bien, Père éternel, on veut te remercier pour ta sainte parole. Combien elle est riche, combien l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait est riche. Combien, Seigneur Jésus, ce que tu as accompli vient transformer, bouleverser, Seigneur, notre rapport à Dieu, notre accès à Dieu, notre repos même comme adorateur imparfait. Seigneur Jésus, merci de cet accès que tu nous donnes au Père, cet accès qu'on a au trône de la grâce, cette grande liberté que nous avons alors qu'on demeure souvent pécheur, Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin, on veut te célébrer. Sois béni. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. Amen. Amen.